Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir à mon micro Anne-Jennifer Chicou. Anne-Jennifer, c'est la fondatrice d'Omboa, une start-up à impact qui aujourd'hui est incubée à Station F. Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up au monde. Et c'est d'ailleurs en plein cœur de Station F que nous enregistrons cet épisode. Durant cet épisode, on va parler de son parcours, des études qu'elle a faites, de ce moment où elle a eu envie de tout plaquer pour lancer son propre projet, d'avoir plus de sens et plus d'impact dans ce qu'elle faisait. Alors elle va nous expliquer comment l'idée a germé, comment elle l'a développée pour aboutir aujourd'hui à la start-up qu'on connaît, Omboa. On va parler de levée de fonds, de recrutement, bref, des sujets ultra intéressants que vous ayez, vous aussi, l'envie ou non de monter votre boîte. Alors, je n'en dis pas plus comme d'habitude et je vous laisse avec cette conversation qui, j'espère, vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Jennifer.
Bonjour Émilie.
Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir dans un épisode du podcast. Déjà parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et aussi parce que c'était une évidence que tu viennes dans ce podcast parce que ton parcours est si inspirant que j'avais envie que tu nous en parles. Donc, c'est parti. J'aimerais, dans un premier temps, que tu puisses te présenter. Alors, brièvement, parce qu'on en parlera un petit peu plus en détail après, mais déjà nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et si tu veux bien, quel âge tu as.
Super, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Alors moi je m'appelle Anne-Jennifer, j'ai 30 ans, mon dieu j'assume pas mais bon il faut assumer, et je suis entrepreneur.
Et alors entrepreneur dans quel domaine ?
Alors j'ai créé une start-up à impact qui s'appelle Omboa, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Et pour ce qui est de mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai enchaîné avec une classe préparatoire littéraire pour finalement être diplômée d'une école de commerce. Donc un petit peu what the fuck, mais bon.
D'accord. Alors aujourd'hui fondatrice d'Omboa, on en parlera effectivement tout à l'heure, tu nous expliqueras un petit peu ce que tu fais dans cette entreprise. Et d'abord on va remonter dans le temps, tu nous as parlé de tes études, j'aimerais qu'on en parle un peu plus en détail. Tu nous dis que tu as commencé par un bac scientifique, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard à cette période-là ?
Alors moi, ma passion à l'origine, c'était d'être reporter. Le rêve absolu de ma vie, c'était de prendre le job de Bernard de la Villardière qui présentait Enquête exclusive à l'époque. Je me voyais voyager et parcourir le monde pour présenter 1 milliard de cultures aux gens. Et en fait, le métier de journaliste, c'est un métier assez précaire et mes parents ont mis un veto. Et mon père m'a toujours dit, il faut absolument que tu sois médecin, c'est l'avenir, il faut que tu sois médecin, ma fille. Donc j'ai un peu été forcée d'aller en section scientifique. Ça a été très très dur, j'ai redoublé ma terminale et puis voilà, donc finalement j'ai laissé les sciences derrière moi pour intégrer une classe préparatoire littéraire parce que j'ai toujours été passionnée de philosophie et de langue de manière générale. J'ai fait 3 ans de prépa, donc une hypocagne, une cagne, et j'ai cubé. Et après la prépa se pose la question de bon bah qu'est-ce que je fais ? J'avais pas envie d'être prof, parce que c'était pas ma vocation. J'avais envie de faire de la communication, mais j'étais pas sûre à 100% de mon choix. Et mon père m'a dit, mais va en école de commerce, tu pourras faire plein de choses après ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri en école de commerce.
D'accord, donc à l'origine, tu es de Paris ?
Oui, je suis de Paris, oui.
Ok, et donc cette école de commerce, je crois que tu m'as dit que c'était à Toulouse ?
Alors exactement, alors c'est un petit peu plus complexe que ça, disons. D'accord. Que j'ai fait 3 écoles de commerce différentes.
Ok, raconte-nous.
La spécificité chez moi en fait, c'est que j'ai envie de tout tester et de tout découvrir, et j'aime pas forcément rentrer dans les cases dans lesquelles on a envie de me mettre.
Bienvenue au club.
Donc après ma prépa littéraire, en fait, au moment où j'étais en prépa littéraire, c'était je crois en 2013-2014, donc c'était un peu la période de l'ascension forte des réseaux sociaux. Il y avait Instagram qui était en train d'exploser. À l'époque, j'avais un blog, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés.
Exactement.
Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve une école un peu digitale où je pourrais... Je pourrais faire un truc de ce blog et j'ai intégré Télécom EM en Ile-de-France, en fait, en Ile-de-France, okay. À Évry, parce que c'était une école de commerce qui avait pour spécificité de nous permettre de découvrir des métiers un peu plus digitaux. Donc on apprenait à coder, par exemple, ce qui est un peu dingue en école de commerce. Okay. Donc j'ai fait ça pendant un an et à la fin de mon année, je me suis rendu compte que le débouché naturel de cette école-là, c'était de travailler dans les systèmes d'info. Ça m'intéressait pas du tout. J'avais envie de faire du marketing, de la communication, de bosser dans le luxe, enfin vraiment les grosses ambitions des nanas en école de commerce, elles époque. Donc j'ai intégré l'ISC, une seconde école de commerce, où j'ai effectué mon master 1. Et à la fin de mon master 1, j'ai fait une année de césure. Alors j'avais pas forcément les sous pour partir à l'étranger, donc j'ai fait 2 fois 6 mois de stage dans des startups, dans une grosse boîte. Et je me suis rendu compte qu'en un an, j'ai appris beaucoup plus qu'en 2 ans d'école de commerce. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est une évidence, je ferai ma dernière année en alternance. Je pouvais pas la faire à l'ISC. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri à Toulouse.
D'accord, je comprends. Donc pendant un an à Toulouse pour ta dernière année, en fait.
Exactement, pour ma dernière année que j'ai fait en alternance. Donc du coup, je faisais des allers-retours.
D'accord, ok. Tu nous disais que tu avais fait des stages en start-up. Est-ce que c'était une volonté d'aller plutôt dans des start-up ou est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça, c'était des opportunités finalement, tout bêtement ou...
Alors, c'était pas du tout une volonté d'aller en start-up. Moi, comme beaucoup de personnes qui sortent d'école de commerce, enfin, du moins à l'époque, j'ambitionnais de travailler dans un grand groupe, mais j'avais cette volonté de vouloir travailler dans la mode. C'était vraiment mon secteur de prédilection et c'est très dur de bosser dans la mode. Oui. Donc, quand j'ai vu cette offre-là chez The Other Store, qui est du coup une espèce de start-up qui fait des sites internet pour toutes les grosses marques de mode, Lancel, Claudie Pierlot à l'époque, etc., je me suis dit, oh là là, mais c'est une occasion de dingue, donc je vais le tenter. Mmh. Et quand j'ai mis mes pieds dans leur locaux, dans le cadre de l'entretien, je me suis dit, mais c'est quoi cette ambiance de ouf? Il y avait que des jeunes, on pouvait venir bosser en basket et en jean, il y avait un baby foot. Enfin, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait l'univers des startups. Et c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied dans le monde des startups.
D'accord, ok. Donc, tu as fait des stages en startup et après, tu me disais hors podcast, hors enregistrement, aussi dans des grandes boîtes dans le secteur financier plutôt?
Exactement. Alors, comment j'ai atterri dedans? C'est purement pour l'argent.
C'est bien, non, mais c'est honnête de le dire.
Pendant mon stage en start-up, bon, j'étais pas énormément payée, hein, comme beaucoup de stagiaires en start-up, mais j'ai beaucoup appris. Et ensuite, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien d'avoir une expérience dans un grand groupe. Et là, j'ai eu une opportunité pour bosser chez Accenture, où j'étais extrêmement bien payée pour une stagiaire. Donc, un stage à plus de 1000 euros, c'est quand même, waouh, des avantages de malade, un siège incroyable, et puis la possibilité de mettre ce nom-là sur mon CV. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et le secteur financier m'a plutôt plu. Au-delà de l'argent, j'ai appris plein de choses. Donc, un petit peu par la force des choses, j'ai atterri en alternance chez AXA IM, qui est la branche investissement du groupe AXA. Pareil, salaire mirobolant pour une alternance, une salle de sport, un CE incroyable. Je me suis dit, bon, bah, je vais finir ma vie dans un grand groupe, c'est pas possible. Malheureusement, ils n'avaient pas de poste en interne. Donc, du coup, j'ai pas pu rester, mais je me suis dit que j'allais rester dans le secteur financier. Donc, j'ai travaillé pour un fonds d'investissement, toujours en marketing, qui s'appelle Carmignac. J'y suis restée 6 mois. J'étais super bien payée. Le job était hyper challenging, mais c'était pas ma vocation. D'accord. Et au bout d'un moment, l'argent, ça suffit pas. On a beau gagner plein d'argent, si on fait pas un job qui nous anime et qui nous donne envie de nous lever tous les matins et qui nous donne le sentiment de faire un truc incroyable de notre vie, ça marche pas, ça marche un temps et ça s'essouffle. Et moi, ça s'est essoufflé. Et puis, c'était pas mon univers, l'univers financier. Donc du coup, je me suis posé plein de questions, mais j'ai quitté ce job-là. J'ai repris un job dans un cabinet de conseil, plus petit, un cabinet de conseil à taille humaine qui s'appelle SVP. Et la particularité des cabinets de conseil, c'est que tu peux travailler sur plein de missions pour plein de clients différents. Donc ça m'a permis de voir plein de choses, de comprendre et un petit peu mieux ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Et après, patatras, le confinement, grosse remise en question. Et je me suis dit, ok, je lâche tout et je monte ma boîte.
Waouh, alors t'as été beaucoup trop vite pour nous. Stop, Jennifer. Donc effectivement, des stages en start-up, dans des grandes boîtes. Après, donc t'as eu des postes en CDD, CDI, comme tu nous l'expliquais là.
Exactement. Ouais.
Ok. Quelles étaient tes missions ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, sans aller forcément beaucoup dans le détail, mais c'était du marketing pur. Qu'est-ce que tu faisais ?
Alors, j'ai fait plein de choses. J'ai un petit peu couvert tout l'univers du marketing et de la communication au sens large. Chez Accenture, j'ai commencé en relations presse, donc communication pure. Donc, c'était une expérience assez sympa. Chez The Other Store, dans la start-up, j'étais traffic manager. Donc, mon job, c'était de faire en sorte qu'un maximum de personnes atterrissent sur le site internet des sociétés pour lesquelles on bossait, donc toutes ces marques de mode, et achètent. Donc, je gérais des campagnes publicitaires. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Quand je suis arrivée chez AXA-IM, j'étais chargée de marque et de publicité. Donc, en gros, mon job, c'était pareil, de faire en sorte de construire une marque forte pour AXA-IM, de faire en sorte d'être une marque attractive pour nos clients. Je gérais beaucoup de campagnes de publicité. Donc, je travaillais également avec des agences de communication.
Ouais.
Donc, c'était hyper intéressant, malgré le fait que ce soit dans le secteur financier.
Oui.
Et chez Carmignac, j'étais également chargée de marque et de publicité. Donc, je gérais encore des campagnes à l'échelle plutôt internationale, des campagnes digitales qu'on lançait sur LinkedIn, qu'on lançait sur Internet, qu'on lançait en forme de bannière. Enfin, voilà, tout l'aspect campagne digitale. Donc, je suis un pur produit du market.
Oui, et mais des missions hyper variées, hyper intéressantes parce que des secteurs différents.
Tout à fait. Et en fait, chez SVP, donc ma dernière expérience, j'étais consultante en marketing digital, donc je couvrais absolument tout. Je pouvais donner des conseils aussi bien opérationnels qu'ultra stratégiques pour des TPE, des PME ou des grands groupes sur des sujets mais divers et variés. Et c'est ça qui était intéressant, en fait, c'était ce côté un peu touche-à-tout.
Ok, d'accord. Donc, tu nous expliques 4 ans d'expérience à peu près, je pense, dans le marketing digital, à la fois stage en start-up, grosse boîte et ensuite en contrat salarié, CDD ou CDI. Et tu nous dis que tu as eu envie de tout plaquer pendant la période du Covid pour ensuite lancer Homeboa, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Alors, ma première question, c'est effectivement le Covid, ça a remis pas mal de choses en question pour plein de monde. Pourquoi, toi, est venu le moment de te dire « Allez, je plaque tout ». Tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous détailler ? Et surtout, moi, ma question, c'est pourquoi, finalement, ne pas te dire « Alors, soit je me reconvertis, par exemple, soit je vais dans un autre secteur qui m'intéressera plus, mais toujours dans le marketing digital, enfin, ou marketing global. » Et pourquoi là, tu t'es dit « Je vais lancer ma boîte, en fait. » Qu'est-ce qui a été le déclic ? Parce qu'il faut quand même oser passer du salariat à l'entrepreneuriat.
Exactement. Alors en fait, je dirais que ce n'est pas forcément un déclic, c'est plutôt un cheminement.
Oui.
J'ai toujours été hyper créative. Donc tu vois, quand on s'est rencontrés, j'avais un blog, donc du coup, je faisais quelque chose à côté. Ensuite, j'ai plus mon blog, mais j'ai toujours fait plein de trucs à côté. Il y a toujours plein de trucs qui m'ont animée. J'ai toujours été la nana aux 1000 passions. Donc c'est vrai que quand tu travailles, tu es cantonné à un seul secteur, à des projets qui ne sont pas forcément hyper variés ou du moins qui ne sortent pas des cases dans lesquelles on te met et dans lesquelles on te met. Dans laquelle on te met. Bon, bref.
on a compris.
Et du coup, voilà, j'avais cette volonté de vouloir un petit peu toucher à tout. Donc, pendant le confinement, c'est une prise de sens. Je me suis dit, OK, je vais tous les jours au boulot, je donne des conseils à des marques, mais est-ce que ce que je fais, ça a vraiment un impact sur la société ? Est-ce que ce que je fais, ça a vraiment un impact sur le monde ? Demain, si je pars, parce qu'on était dans une période un peu horrible où j'ai plein d'amis qui ont perdu des proches, qu'est-ce que j'aurais fait, en fait ? Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, OK, mais si je pars demain, qu'est-ce que j'ai fait sur cette planète ? Enfin, quel a été mon rôle ? Et c'est horrible de se dire, rien. J'ai rien créé, j'ai rien fait. Je suis fière de... Je peux pas dire que je suis fière de rien, mais j'ai pas marqué au fer rouge cette planète. Donc, du coup, il y avait ce premier constat-là.
Oui, d'accord.
La seconde chose, c'était en pleine période du Black Lives Matter, de toutes ces revendications. Moi, je suis originaire d'Afrique, donc forcément, ça me parlait tout ça. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter ma contribution, moi aussi ? Comment est-ce que je peux participer à faire en sorte qu'on soit dans une société plus inclusive ? Comment est-ce que je peux donner du sens, en fait, à ce que je fais ? Et comment est-ce que je peux matérialiser les combats qui me sont chers ? Donc ça a été la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que j'ai toujours été passionnée de voyage. Moi, quand je partais en vacances, j'allais toujours dans des marchés chinois, 1 milliard de choses, et je les ramenais en France. Et à chaque fois, mes potes me disaient « Mais d'où ça vient ça ? D'où ça vient ça ?» Je me dis « Je pourrais peut-être en faire un petit truc. » Donc à l'époque, j'avais créé un petit site internet qui s'appelait déjà Homeboa.
D'accord, donc la V1 en fait.
Donc la V1, exactement. Où l'objectif, c'était de partager finalement toutes les cultures que j'avais découvertes avec les Français. Donc je vendais des produits d'artisanat du monde entier.
Ok.
Et donc pendant ce confinement-là, tout s'est un peu entremêlé. Quête de sens, revendication et volonté de vouloir promouvoir les cultures d'Afrique et amour pour l'artisanat du monde. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à quitter le salariat sans vraiment le quitter, parce que j'étais encore en poste à l'époque.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Quand tu as eu l'idée à germer d'Omboa version 1, tu étais encore en poste à cette période-là.
Exactement. Donc j'ai fait les deux, en fait. Toute la journée, je travaillais. Et puis le soir et le week-end, je développais ma petite entreprise qui était au balbutiement du truc. Et en fait, j'ai eu la chance d'intégrer un programme. Je pense qu'on pourra en reparler un peu plus tard.
Oui.
Un programme d'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a tous les signes qui sont au vert, donc go, je lâche tout et je me lance pour de vrai.
Ok, bon, chouette. En tout cas, c'est intéressant cette quête de sens. Je pense que ça fera justement sens pour plein de gens qui vont écouter le podcast. Donc ça, c'est top. Donc là, on est en 2019, je crois, au moment où ça commence à...
On est en 2019 au moment où ça commence à germer. Et c'est en 2020 que je me suis lancée...
Que véritablement, tu t'es lancée.
Exactement.
Ok. Donc tu nous parlais que tu avais envie de valoriser un peu les cultures alors, du monde et principalement d'Afrique, je
tout
crois.
Tout à fait.
Valoriser l'artisanat, etc. Donc t'as lancé un e-shop de produits que toi-même, tu allais chiner aux quatre coins du monde.
Exactement.
Ou d'Afrique, ou est-ce que...
Non, j'allais moi-même. Je me souviens, je suis partie au Bénin, parce qu'en fait, ma maman habite au Bénin.
D'accord.
Donc j'allais au Bénin, j'allais dans les marchés, j'allais rencontrer les artisans, j'allais dans les villages. J'ai pris énormément de photos et de vidéos. Et du coup, j'achetais tous ces produits-là et je les ramenais dans ma valise avec moi pour les mettre sur mon e-shop et les vendre en ligne.
D'accord.
Le problème, c'est qu'il se passe plein de problèmes quand on importe des produits.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un vase que tu vas pouvoir acheter peut-être sur place 5 ou 10 euros, avec les taxes, les frais de transport, et ci et ça, ça arrive à une petite centaine d'euros.
Ouais.
Et personne ne va acheter un vase à 100 euros,
oui.
Aussi joli soit-il.
Ouais, bien sûr.
Donc du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Ouais.
Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Finalement, c'était un e-commerce que tu as lancé au tout départ.
Ouais.
C'était toi qui gérais tout.
C'est moi qui gérais tout de A à Z.
Okay,
donc c'était hyper chronophage. J'étais avec mes milliards de colis. Enfin, mes milliards, j'exagère, mais j'étais avec mes colis à aller à la poste. Franchement, être entrepreneur et aller à la poste, c'est dur.
Les files d'attente, c'est ça le...
Les files d'attente interminables. Les gens qui sont au ralenti de chez ralenti. Les clients qui, pour une raison que tu ignores, ne reçoivent jamais leurs colis. C'était... pas ma vocation, voilà. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, les vendre des produits, aller à la poste, faire des emballages, c'est pas ce qui me faisait vibrer. Donc du coup, c'est un peu pour ça que j'ai pivoté, quoi.
D'accord. Et cette partie-là, comme tu disais, la gestion peut-être des stocks, des commandes, les problèmes de transport, est-ce que tu t'es pas dit que finalement, t'allais soit te faire accompagner ou soit avoir quelqu'un avec toi? Non, tu t'es dit que vraiment, finalement, c'était le truc qui te faisait dire que non, c'était pas sous ce format-là que tu voulais valoriser un peu ton idée de départ.
Eh bien, disons qu'en fait, pour pouvoir déléguer ou être accompagné, il faut avoir de l'argent. Et moi, je me suis lancée, j'avais mes zéro argent.
Ouais.
Enfin, j'étais plutôt dans le rouge voilà, jeune travailleuse, jeune travailleuse, ça ne se dit absolument pas, jeune cadre, on va dire, avec un prêt étudiant à rembourser, un loyer à payer. Donc, c'était très compliqué pour moi de dégager beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle le bootstrap, donc c'est-à-dire démarrer ton projet sans avoir nécessairement beaucoup d'argent. Et donc, du coup, j'étais obligée de tout faire moi-même.
Mmh.
Et quand tu fais tout toi-même dès le départ, eh ben, tu sais très vite... ce qui te fait vibrer et ce qui te fait moins vibrer. Et moi, les produits, je me suis très vite rendu compte que ça me faisait moins vibrer. Peut-être que ça me fera vibrer plus tard.
Oui.
Bon, en tout cas, je me suis dit non, ça va pas le faire.
Ok. Mais donc, c'est bien parce que tu t'es rendu compte de ça. Alors, déjà, de base, tu avais une idée hyper... Enfin, qui avait du sens pour toi. Tu as eu cette idée d'entreprise Omboa pour valoriser un peu l'artisanat via des produits que tu allais chiner pendant tes voyages et ramener. Finalement, avec tous les problèmes de fonctionnement, etc., ça t'a fait dire que c'était pas de cette façon-là que tu voulais amener ton idée. Et donc, du coup, t'as pivoté. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'es venue l'idée du pivot et de la nouvelle activité, entre guillemets?
Alors oui, comment m'est venue l'idée du pivot? Disons que, alors on était, je sais même plus en quelle année on était. On était vers
2020 peut-être.
On était aux alentours de 2020. Et il y a eu un marché de Noël en fait, un marché de Noël afro au hasard ludique. Et je me suis dit, super, ça va être l'occasion d'écouler mon stock sans avoir à me préoccuper de la poste et de tous les problèmes. Je crois que la poste m'a traumatisée.
Bah effectivement, à t'entendre, oui, je pense.
De la poste et de tous les problèmes liés aux envois. Donc j'y vais et j'étais avec ma grand-mère qui présentait aussi les produits. Et en fait, les gens venaient échanger avec elle. Et très vite, je me suis rendu compte que ce qui intéressait les gens, c'était pas vraiment le produit en soi, mais plutôt l'histoire qu'il y avait autour de ça.
Ouais.
On vendait par exemple des petits éventails. Et en fait, l'éventail était sculpté dans une... dans un petit morceau de bois avec une petite forme. Et en fait, cette forme, c'était Afafa, la déesse de la fertilité. Et voilà ma grand-mère qui commence à raconter l'histoire d'Afafa, de la déesse de la fertilité, qui fait ci, qui fait ça, de ce que ça représente dans la culture du Bénin. Et j'ai vu que les gens étaient hyper intéressés, qu'ils avaient vraiment ce sentiment de voyager en fait en écoutant ma grand-mère. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, le produit, c'est plutôt un prétexte. Ce qui intéresse vraiment les gens, c'est l'histoire et l'échange qu'ils peuvent avoir avec une personne qui vient de ce pays-là, ouais, ou du moins de cette région du monde, parce que ma grand-mère n'est pas béninoise, elle est camerounaise, mais ce sont des cultures qui sont quand même assez proches.
D'accord.
Et je me suis dit, bah voilà, en fait, pas besoin d'être attaché à un produit. En fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les gens se rencontrent, échangent et que toutes les personnes qui ont envie de partager un bout de leur histoire et de leur culture puissent le faire auprès de personnes que ça intéresse. Et c'est comme ça que j'ai pivoté et que j'ai créé, du coup, le projet tel qu'il existe aujourd'hui, à savoir Omboa.
Ok, alors dis-nous, je reviendrai un petit peu plus en détail après, mais dis-nous justement aujourd'hui, Omboa, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Alors Omboa, c'est quoi? Omboa, aujourd'hui, c'est une plateforme qui a pour objectif de faire découvrir le monde à un maximum de personnes. On est une marketplace qui met en relation d'une part des femmes qui ont envie de partager leur culture et leur savoir-faire en proposant des activités authentiques et traditionnelles. Pour donner quelques exemples, il y a des cours de cuisine du monde, des ateliers de poterie traditionnelle, des ateliers pour apprendre à faire des cosmétiques à base de beurre de karité, de la fabrication de cocktails afro-caribéens, enfin vraiment plein d'activités qui vont permettre à ces femmes-là de partager leur culture et le savoir-faire de leur pays d'origine. Et on les met en relation, ces femmes, avec des personnes qui ont envie de découvrir le monde de façon hyper ludique en apprenant un savoir-faire.
D'accord, ok. Et quand on a préparé l'épisode, tu me parlais d'une étude INSEE et tu m'as donné un chiffre que je trouvais ultra intéressant. Est-ce que tu peux nous le redire à
tous ?
Tout
à fait, bien sûr. Alors en fait, pour juste refaire un petit peu l'histoire, d'où sort ce chiffre et comment je suis arrivée à ce chiffre-là ?
Raconte.
C'est né d'une petite histoire personnelle avec ma petite sœur. En fait, j'ai une petite sœur qui s'appelle Joyce, qui aujourd'hui a 12 ans. Et un jour, je suis allée la chercher à l'école et elle était en train de pleurer. Et quand je lui ai dit, Bibouille, pourquoi tu pleures ? Elle m'a répondu que c'est parce que sa copine Clara lui a dit qu'elle ne pouvait pas être la Reine des Neiges, parce que la Reine des Neiges, elle n'est pas noire, et que les Noirs, ça ne peut pas être des princesses. Moi, j'ai trouvé ces mots horribles.
Dur, hyper dur quand on est une petite fille d'entendre ça. Ouais.
Mais finalement, les enfants, ce que disent les enfants, en fait, c'est le reflet qu'ils ont de la société. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage, en fait. Donc j'ai commencé à chercher en me disant, mais attends, il y a un vrai problème de manque de représentation et de connaissances qu'on peut avoir de toutes ces cultures dites minoritaires. Comment c'est possible alors qu'on vit dans une société multiculturelle?
Ouais.
Et il y a ce fameux chiffre qui expliquait qu'en fait 80% des Français trouvent que la diversité est une super bonne chose, que c'est quelque chose de riche et que c'est incroyable, mais que dans les faits, il n'y a que 40% des personnes qui échangent avec des gens qui ont une culture très différente de la leur. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent par manque d'occasion. Et je me suis dit, mais mince, c'est dommage que les gens n'échangent pas et n'apprennent pas à connaître des cultures très différentes des leurs par manque d'occasion.
Ouais.
Donc du coup, j'ai décidé de créer ces occasions et ces opportunités de rencontre avec Omboa. Et en fait, je critique pas parce que finalement, c'est ce que je te disais un petit peu en off, moi j'ai une de mes très bonnes amies qui vient du Bangladesh. Et en fait, si je l'avais pas connue, jamais j'aurais pu découvrir la culture du Bangladesh. Et c'est parce que j'en ai pas envie, c'est juste parce que j'en ai pas l'occasion.
Ouais, bien sûr. Et je trouve ça fou pour celles et ceux peut-être qui nous écoutent de se dire qu'en fait, tu t'es lancée, tu t'es pas posée avec un carnet en train absolument de vouloir trouver une idée. C'est venu à toi de par la vie que tu menais, de par les rencontres que tu as faites, de par tes origines, et c'est chouette en fait de partir de cette quête de sens et d'aboutir aujourd'hui à l'activité que tu as et qui fait d'autant plus sens quand tu nous parles de ce chiffre-là parce que c'est par manque d'occasion et toi tu vas créer l'occasion en fait.
Exactement.
C'est fou, j'adore. Donc tu nous parlais de l'activité aujourd'hui d'Omboa suite au pivot. Comment ça se passe en fait? Tu dis que donc, c'est des ateliers soit culinaires, soit peut-être créatifs ou autres. Moi, si demain je veux participer à un atelier, comment ça se passe? Est-ce que déjà c'est que sur Paris? Est-ce qu'on réserve en appelant, en ligne? Enfin, raconte-nous un peu.
Alors, je raconte tout. Donc en gros, c'est une plateforme, donc c'est un site internet.
Oui.
Alors aujourd'hui, on est essentiellement en Île-de-France, parce que petite start-up, avec une volonté de dessemer le modèle dans toute la France et pourquoi pas à l'international, je oui. croise les doigts. En tout cas, donc, si aujourd'hui des franciliens veulent réserver un atelier, ils peuvent se rendre sur le site internet d'Omboa, choisir l'activité qui leur plaît en fonction de leurs appétences ou de la région du monde qu'ils ont envie de découvrir, réserver, payer et puis se rendre dans l'un de nos lieux partenaires. En fait, la okay. particularité des ateliers, c'est qu'ils ne sont pas faits chez toutes ces femmes-là, qu'on appelle des Naoué, mais ils sont faits dans un réseau de lieux partenaires avec lesquels on bosse. C'est des lieux engagés. Pour donner quelques exemples, on a le Mob Hotel, le Hasard Ludique, la Cité Fertile, vraiment que des lieux engagés. D'accord. Et qui ont à cœur en fait, de soutenir des projets à impact sociaux et ou environnementaux. Et puis voilà, ça permet à nos clients de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de chouettes lieux.
Okay.
Et on a également une offre en ligne qu'on ouais. a faite pendant le confinement. On a un peu mise en stand-by, mais elle a vocation à reprendre assez rapidement parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui vivaient en région et qui nous ont dit « Mais nous aussi, on a envie de découvrir de nouvelles cultures et ouais. on n'est pas sur Paris, il y en a marre de faire des trucs que pour les Parisiens. » Donc je les ai écoutés et on a fait un POC, en fait, un petit test d'atelier en ligne qui a plutôt bien fonctionné et qu'on devrait reprendre d'ici peu de temps.
Ok, bah, puis après c'est peut-être les perspectives de développement aussi, l'idée Exactement. C'est de tester. Et tout à l'heure tu nous parlais de start-up, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, mais je ne suis pas certaine, et moi en préparant l'épisode, je me suis dit bon, ok, start-up, j'ai l'habitude de ce mot, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Alors je suis partie sur le site de la BPI chercher un peu la définition d'une start-up que je vais donner tout bêtement, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais la BPI nous parle d'une start-up comme une entreprise nouvelle, innovante, à fort potentiel de croissance et de spéculation sur sa valeur future. Et ils disent que ça passe d'abord par une phase d'expérimentation de son marché et de son modèle économique, et que être start-upper, c'est aussi un état d'esprit. Qu'est-ce que tu en penses de cette définition ?
Je suis hyper d'accord avec ça. Alors, moi, j'entends deux parties dans la définition. La première qui concerne le business en tant que tel. Une start-up a pour vocation de scaler, comme on dit. Ça veut dire de passer à l'échelle et de devenir très, très grosse.
Oui.
Moi, je ne me définissais pas du tout comme une start-up au départ parce que tout était fait de manière artisanale. C'était moi, dans mon salon, avec mon ordinateur, en train de tout faire. Donc, quand on me disait, ouais, tu crées une start-up, je répondais, bon, calmez-vous, j'ai un site internet, doucement.
Oui.
Et puis bah, aujourd'hui, je suis à Station F, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
Oui, bien sûr, on dira tout ça.
Et du coup, en fait, tu deviens une start-up quand tu utilises le digital pour avoir encore plus d'impact. Oui. Au départ, on avait 2-3 femmes qui partageaient leur culture sur la plateforme. Très vite, on est monté à 30 et demain, on a l'ambition d'en avoir des centaines.
Oui.
Et pour faire ça, il faut avoir un outil technologique qui nous permette de le faire. Donc, c'est en ça qu'on peut dire que Omboa, c'est une start-up parce qu'on a pour vocation d'avoir des centaines de personnes qui partagent leur culture et de grossir assez rapidement. Mais la deuxième partie de la définition, c'est celle qui me plaît le plus, c'est oui. avant tout un état d'esprit. On peut ouvrir une boulangerie et se dire qu'on est un start-upper. En fait, cette volonté d'être en phase avec son marché, de tout le temps évoluer, de tester de nouvelles choses, de prendre des risques, pour moi, c'est ça, en fait, être une start-up et avoir un état d'esprit de start-up. C'est cette volonté de vouloir innover perpétuellement, d'écouter son marché et de casser un peu les codes. Et c'est un peu en ça aussi que je me reconnais dans cette définition.
Bon, bah très bien, très bien. Bravo la BPI pour la définition, mais je trouvais ça intéressant d'en reparler parce que c'est vrai qu'on est très dans ce monde-là aujourd'hui, on parle des startups, mais peut-être que c'est pas si familier des gens de véritablement savoir ce qu'est une startup ou faire la différence entre une entreprise traditionnelle et une startup. Donc merci pour cette précision. Donc tu nous parlais des ateliers en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des Naoué ? C'est le terme que tu utilises pour désigner les animaux. Animatrice, je ne sais pas si
Tout
je peux dire
fait,
ça comme ça,
oui,
qui anime les ateliers, qui sont originaires des pays que tu vas mettre, enfin des cultures que tu vas mettre en avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu les trouves? Est-ce qu'elles sont en Île-de-France? Est-ce qu'elles viennent pour faire les ateliers directement depuis l'Afrique ou un autre pays? Enfin, comment ça se passe?
Alors, les Naoué, c'est un grand sujet, effectivement. C'est les femmes qui animent les ateliers sur la plateforme.
Oui.
Ça a beaucoup évolué.
D'accord.
Au départ, ma volonté première, c'était de travailler en fait, avec des réfugiés.
Oui.
Pourquoi? Parce que je partais du principe que déjà, en mettant en avant des réfugiés, je leur donnais la possibilité de créer de la valeur et de gagner de l'argent. Alors que c'est très compliqué de gagner de l'argent quand on est réfugié. Et que numéro 2, je leur permettais de rencontrer d'autres personnes,
ouais.
parce qu'il y a toujours cette question de solitude. Et qu'en numéro 3, personne de n'est plus légitime qu'une personne qui vient d'un pays pour parler de ce pays.
Bien
donc
sûr.
Ça, c'était le tout début. Sauf que dans les faits, c'est très compliqué de bosser avec des réfugiés. Il y a pas mal de barrières administratives.
Oui.
Il y a la barrière de la langue. En fait, c'est un enfer. Donc du coup, moi, toute seule dans mon salon, c'était impossible de prendre ce sujet à bras le corps. Donc j'ai un peu ouvert et j'ai envoyé un message sur les réseaux sociaux en disant « Hello, hello !» Que toutes les personnes qui ont envie de partager leur culture et de gagner de l'argent en le faisant me contactent. Je fais un projet super cool. Et donc, il y a eu certaines personnes qui m'ont contactée. Moi aussi, je suis allée chercher des personnes sur Instagram, sur Facebook, j'ai demandé à des gens que je connaissais de demander à leur tante, à leur mère, à leur cousine.
Oui.
Et c'est comme ça en fait que j'ai créé la première communauté de Naoui.
Okay.
Et aujourd'hui en fait les Naoui elles ont un peu évolué, ce sont des artisanes, des artistes, des cuisinières, parfois même des chefs.
D'accord.
Qui ont un vrai savoir-faire, donc il y a eu ce côté un peu... je dirais pas plus premium, mais de trouver des femmes avec une vraie expertise, on
ouais.
va dire, dans leur domaine, qui partagent leur culture et leur savoir-faire.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Elles sont... Par contre, pour le coup, tu as gardé le fait qu'elles viennent de la culture.
Tout à fait.
Enfin, en lien avec l'atelier qu'elles vont animer.
Tout à fait. En fait, ouais. au départ, donc, moi, je te parlais beaucoup de l'Afrique, notamment subsaharienne, parce que c'est la région du monde dont je viens.
Mm.
Donc, les Naoui, au départ, elles venaient principalement d'Afrique subsaharienne. Ensuite, on a eu des Naoui qui viennent des Antilles et des Caraïbes, donc on a une petite ouverture,
okay.
et après de l'Afrique du Nord, et on a cette volonté en fait d'avoir des Naoui qui viennent de partout, de toutes
ouais.
les cultures, en commençant plutôt par des cultures dites du Sud, donc Asie, Amérique latine, et pourquoi pas quand on aura grossi des cultures de partout. Donc elles sont principalement basées en Île-de-France,
ouais.
pour les Naoui qui font des ateliers en présentiel,
mm-hmm.
et pour les ateliers qui sont en ligne, pardon, l'idée en fait c'est de recruter des Naoui à travers le monde.
Oui, là, pour le coup, tu peux aller les chercher un
Exactement.
Peu partout.
Exactement. Par exemple, pour te donner un exemple très concret, ma mère, elle habite au Bénin.
Oui.
Et elle me dit, au Bénin, il y a plein de femmes qui seraient heureuses de partager un bout de leur histoire et de leur culture. On a des galeries d'art qui seraient heureuses, en fait, de présenter certaines œuvres. On a des femmes qui seraient heureuses de présenter des plats en ligne. On peut le faire,
ouais,
contrairement
super.
À ce qu'on pense. Il y a Internet. donc, voilà, on a pour vocation demain de permettre à une femme qui est au Japon de présenter une recette de dorayaki, à une personne qui est en Amérique latine de présenter ses œuvres d'art et ou d'apprendre aux gens à peindre à la mexicaine. Enfin voilà, on a cette volonté de pouvoir proposer à n'importe quelle femme, peu importe où elle soit, de partager sa culture avec n'importe qui.
Ok, bah c'est tellement riche. Moi, je suis épatée de cette idée et de cette entreprise que tu développes. Le terme Naoui, ça a une signification ? Ça veut dire quelque chose ?
Oui, le terme Naoui, ça veut dire femme. En fait, moi, je suis
D'accord.
originaire du Cameroun et du Bénin.
Oui.
Donc, en fait, Naoui, ça veut dire femme en Fongbé, qui est un dialecte du Bénin. Et Omboa, qui se prononce en réalité Mboa, mais moi, je l'ai un peu remixé.
Ouais.
ça veut dire chez soi, à la maison, en
D'accord.
Douala, un dialecte du Cameroun.
Bon, bah super. Bien trouvé, tout est bien pensé. Est-ce que tu as des exemples ? Alors, tu nous en as donné quelques-uns, mais par exemple, là, aujourd'hui, si on veut réserver un atelier, est-ce que tu as des exemples d'expériences à vivre avec une Naoui ?
Bien sûr. Alors, on a par exemple, donc, je vais faire les trois. On a
ouais.
la gastronomie, l'artisanat et l'art.
D'accord.
Au niveau de la gastronomie, on va avoir des cours de cuisine. On peut par exemple apprendre à faire un tagine ou des fricassés avec Leïla qui vient de Tunisie.
Ouais.
On peut apprendre à faire de la pâtisserie afro-végétale avec Alicia. On peut apprendre à faire des cocktails aux saveurs afro-caribéennes avec Marie. Donc ça, c'est un peu la partie gustative du projet.
D'accord.
Ensuite, on a la partie artisanat. On peut apprendre à faire des savons avec tout un tas d'ingrédients qui viennent du Maghreb, avec Alem. On peut apprendre à faire des crèmes à base de beurre de karité, avec Awa. Et on a la partie un peu plus artistique, où on est en train de développer des cours de yoga, alternatives un petit peu, ou des cours de peinture, ou de la danse. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de couvrir tous les savoir-faire du monde entier.
Ouais, c'est chouette. Et plus que le terme d'atelier, je pense que tu utilises le terme d'expérience. Parce
Exactement.
Que, ouais, c'est des vraies expériences parce qu'à la fois, tu vas faire quelque chose de tes mains, donc tu t'es complètement acteur, en fait, de cette expérience-là. Et en même temps, tu découvres une culture. Donc, vraiment, Tom, j'ai hâte de participer à un atelier.
Eh bien, tu l'as bienvenue.
Donc, les ateliers sont disponibles pour moi, pour le voisin, pour n'importe qui. Est-ce que tu l'ouvres aussi au B2B ou est-ce que tu restes en B2C? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, on l'a ouvert dernièrement au B2B, purement par coïncidence. Enfin, comme tu as pu le voir, je suis une fille qui se laisse un peu porter par la vie.
Mais c'est bien, tu as raison. Et je précise, B2B, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ouvert aux entreprises, en fait, le B2B.
Et oui, on a ouvert au B2B. Alors en fait, j'ai croisé la route d'un ami d'une amie, on va dire, qui me disait, voilà, on a des team building à faire chez Doctolib. Donc à l'époque, il bossait chez Doctolib. Et c'est vrai qu'on a envie de faire un truc un peu plus sympa qu'un bowling, un karaoké. Et moi, je trouve ça chouette, ton concept de faire découvrir de nouvelles cultures. Est-ce que tu pourrais nous faire un truc? Et là, je me suis dit, bah ouais, je pourrais.
Bingo.
Je pourrais, j'ai plein de Naoué qui font des trucs cool. J'ai des Naoué qui font de la cuisine. Donc du coup, on a Eolia Pâtisserie qui a fait un magnifique gâteau afro-végétal. Et on a Awa qui a fait toute une activité autour du karité avec les équipes de Doctolib. Et c'est comme ça qu'on a mis un pied dans le B2B. Et du coup, depuis, en fait, on ne s'est jamais arrêté. On a fait principalement des team building. Et là, on est en train de développer deux nouvelles offres, une offre d'onboarding de collaborateurs,
ouais, super,
à destination plutôt de ce qu'on appelle les scale-up, donc des grosses startups qui sont des centaines et qui grossissent hyper vite.
Et est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire onboarding pour ceux qui ne
Alors,
seraient
oui,
pas familiers avec
le terme?
Bien sûr,
il faut que j'arrête de jargonner parce que
non,
ça
mais
c'est
tu
terrible.
As raison. Moi je comprends, mais je préfère que tu puisses vulgariser pour que tout le monde.
Alors l'onboarding, c'est quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, on vous présente un peu l'entreprise, les valeurs. On vous fait une petite visite des locaux. C'est vraiment l'accueil en entreprise. Et finalement, il y a peu d'entreprises qui le font vraiment, alors que toutes les entreprises recrutent.
C'est ça.
Et en fait, on est dans une société aujourd'hui où les gens ne vont plus juste travailler pour gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, tu travailles dans une société parce que tu es attaché aux valeurs de la société, parce qu'il y a une bonne ambiance et que tu t'entends super bien avec tes collègues. Et c'est ça qui retient les gens.
Ouais.
Demain, si tu te fais débaucher par une autre boîte et que tu es dans ton petit job et que tu te fais débaucher pour aller travailler ailleurs, si tu es en phase avec les valeurs de la société, si tu es bien dans la société, si tu aimes bien tes collègues, tu aimes bien tes missions, bah tu restes.
Ouais.
Et l'idée, c'est d'aller voir les entreprises en leur disant, faites en sorte de créer du lien entre vos collaborateurs et affirmer les valeurs que vous portez au travers d'un atelier Umboa. Mmh. Et en fait, c'est dès l'arrivée des collaborateurs qu'il faut que vous puissiez les embarquer. N'attendez pas un ou deux ans avant de leur dire, tenez, on va faire une petite team building entre collaborateurs alors que ça fait un an que vous êtes dans la même boîte. Non, c'est dès qu'on arrive, on se présente, on fait une activité tous ensemble et ça permet aux gens de rencontrer des personnes qui sont dans d'autres services et de faire une activité un peu sympa qui va leur apporter quelque chose. Et il y a aussi cette volonté de vouloir faire en sorte qu'il ne faut pas attendre le nouvel an chinois pour valoriser les collaborateurs asiatiques.
Oui.
Donc, valoriser les nationalités, les origines de vos collaborateurs au travers d'un atelier Umboa. Donc, on vise beaucoup des entreprises où on a des cultures et des nationalités très différentes qui travaillent au sein de la même structure.
Ouais, mais c'est une belle perspective de développement parce que je pense que c'est ultra important ce que tu disais pour la cohésion d'équipe dès lors que tu rentres et que tu mets les pieds dans une boîte. Alors aujourd'hui, on enregistre cet épisode à Station F, qui est un endroit que je connais un petit peu, dans lequel tu viens chaque jour pour travailler. En tout cas, c'est là où sont tes bureaux. Station F, est-ce que je dis une bêtise si c'est le plus gros incubateur européen ?
Du monde, c'est
du
le
monde.
Plus gros campus
carrément
de start-up du monde.
Ouais. Donc on est entouré aujourd'hui de plein de start-up. C'est un endroit, je trouve, propice aux idées. Enfin, voilà, ça donne envie d'entreprendre et d'avoir plein d'idées et de les mettre en œuvre. Est-ce que tu peux, franchement, Anne-Jennifer, nous expliquer comment tu en es arrivée à Station F? Moi, je trouve ça fou. J'ai découvert Station F il y a quelques temps. Tout le monde ne peut pas être incubé à Station F. Donc explique-nous. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une volonté de ta part? Est-ce que c'est vraiment toi qui allais toquer en disant comment ça se passe pour être incubé? Est-ce qu'on est venu te chercher? Voilà.
Alors, j'en reviens toujours pas d'être à Station F. Je suis hyper reconnaissante. Je suis trop contente.
Mais c'est mérité. C'est certainement parce que, enfin, c'est même sûr, c'est pas certainement, c'est que ton cheminement a fait que tu l'as mérité aujourd'hui.
Ah, mais complètement.
Là.
Alors, en fait, Station F, comment j'ai croisé la route de Station F? Station F, c'est un incubateur et c'est pas mon premier incubateur.
Ouais.
J'étais plutôt dans des incubateurs à impact sociaux auparavant. Je suis passée par la ruche, j'ai fait le programme Live for Good, donc vraiment des incubateurs à impact sociaux. Et en fait, dans le milieu des startups, Station F, c'est. c'est the truc, quoi.
C'est un peu le Graal, quoi.
Exactement, c'est the place to be. Et comme tout le monde, je me suis toujours dit, oh là là, j'aimerais trop intégrer Station F. À côté de Station F, il y a un resto qui s'appelle La Félicita.
Oui, bah alors arrête, parce que les tartes citron meringue et géante, voilà, moi je succombe.
Et j'y étais tout le temps. Et j'y étais tout le temps et je voyais passer des start-upers avec leurs badges et je me suis dit, oh là là, moi aussi un jour je serai à Station F, je m'en fous. Et j'ai vu passer un appel à projet qui s'appelle le programme Fighters. En fait, Station F, il y a plein de programmes différents. Ouais. Tu as des corporates, donc des grosses entreprises qui ont des programmes comme LVMH, TF1. Tu as des écoles qui ont des programmes comme HEC, EDEC. Et tu as des programmes qui sont tenus, on va dire, par Station F, qui sont les programmes Founders, Fighters et Femtech.
D'accord.
Et le programme Fighters, c'est un programme en fait qui a destination des entrepreneurs qui sortent un peu des clous, comme moi.
Ok.
Donc, qui n'ont pas forcément, soit qui n'ont pas forcément fait de grandes études, soit qui ont eu un parcours un peu sinueux, soit qui viennent de banlieue, soit qui sont issus de la diversité, qui viennent de milieux ruraux. Voilà, parce qu'en fait, je pense que ce qu'il a expliqué Xavier Niel, puis c'est lui qui a créé Station F, Xavier Niel, il a juste eu le bac, quoi. Je suis même pas sûre qu'il ait eu le bac. En tout cas, il a pas fait de grandes études.
Oui, c'est vrai.
Et il disait qu'en fait, des entrepreneurs, c'est pas forcément le mec qui a fait HEC, qui a une super carrière. C'est des gens qui viennent de partout.
Mais carrément, c'est bien de dire ça parce que franchement, aujourd'hui, tout le monde peut créer sa boîte. Ouais, tu as raison.
Tout à fait. C'est des gens qui viennent de partout. Et il a créé ce programme pour donner la chance à tous. Et du coup, j'ai candidaté. C'était un dossier, c'était des entretiens. Et la magie a opéré. Ils ont adoré mon projet et me voici. Donc, je suis trop contente.
Alors, t'es là depuis quand ? Station F existe, je crois, depuis 2017. Ça a été inauguré en 2017. À quel moment, toi, tu l'as intégré ? Ça fait pas longtemps, je crois.
Ça fait pas longtemps. Je suis là depuis janvier, depuis le 17 janvier.
Ok. Bon, super. Est-ce que du coup, t'es ravie d'être là ? Est-ce que ça t'aide justement d'autant plus à développer un peu Homeboa en ayant plein d'idées, peut-être en rencontrant des gens aussi ici, j'imagine ?
Et c'est la force de Station F, en fait. Je pense qu'au-delà des programmes, c'est les rencontres. On est dans un énorme lieu où il y a plein de personnes qui créent des projets extraordinaires, des projets qui potentiellement vont changer le monde.
Ouais.
Et c'est trop bien d'être dans ce truc d'émulation où tout le monde réfléchit, tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie d'innover et ça donne des idées au quotidien. Et puis il y a tout qui est fait en fait pour qu'on réussisse. On nous permet d'échanger avec des personnes qui ont eu des parcours incroyables, que ce soit des entrepreneurs ou pas d'ailleurs.
Oui.
On nous met à disposition des experts qui peuvent nous aider sur des sujets très précis. Donc tout est fait en fait pour qu'on réussisse et c'est pour ça que c'est top d'être ici, quoi.
Ouais, t'as tous les outils pour vraiment développer Homeboa. Ok, très bien. Alors, comme quoi, pour revenir rapidement, comme quoi tu as démarré seule chez toi dans ton appart de peut-être banlieue parisienne, je ne sais plus si tu étais Paris ou banlieue, mais peu importe, à faire germer Homeboa. Et aujourd'hui, tu te retrouves à Station F. Donc, comme quoi, quand on bosse,
tout
quand on
fait.
Est acharné, quand on croit en son idée, c'est possible et c'est pas fini.
Et c'est pas fini.
Est-ce que tu es seule aujourd'hui à développer le projet Homeboa ? Est-ce que tu es accompagnée ? Tu as une équipe ? Comment ça se passe ?
Alors aujourd'hui, je ne suis plus seule, enfin ! J'ai un associé.
D'accord.
J'ai un associé et j'envisage de prendre une deuxième associée, une CTO. Donc je suis en opération séduction parce que les profils tech, c'est dur.
D'accord.
Assez dur.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, plutôt des profils tech du coup.
Plutôt des profils tech. En fait, l'idée, c'est de m'entourer de personnes qui ont des compétences que je n'ai pas.
Bien sûr, ouais.
Et j'ai deux stagiaires. J'ai deux stagiaires, donc petite équipe de 4 personnes, vocation à devenir 5. Et là, en fait, je suis un peu en phase de levée de fonds.
D'accord.
J'essaye d'aller chercher des sous pour recruter et agrandir cette équipe pour pouvoir faire grossir le projet.
Ouais, parce que alors moi, je ne suis pas forcément familière de l'univers startup, mais c'est sûr que tu as beau avoir toutes les plus belles idées du monde, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout porter seul et tu as besoin d'être accompagné. Et comme tu le disais, accompagné de personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes. Ça ne sert à rien d'aller recruter des gens qui savent aussi ce que tu sais toi, mais qui ont des compétences vraiment différentes. Comment, alors tu as un associé, tu m'as dit, et tu recherches un CTO. Comment tu vas chercher ces personnes ? Est-ce que là encore, c'est des rencontres que tu fais et finalement, ça se fait comme ça ? Est-ce que c'est des gens que tu connais, enfin, explique-nous un peu pour ceux qui se poseraient des questions.
L'association, ça vient un peu avec les rencontres. Je me suis jamais dit, il faut absolument que je trouve des associés.
D'accord.
C'est des rencontres, c'est des amis d'amis, c'est des amis d'enfance. C'est toujours des gens qui sont proches de mon cercle.
Ouais.
Pareil, je fonctionne beaucoup aux recommandations. Donc, c'est-à-dire que des fois, je traîne sur LinkedIn et puis je vois passer des CV. C'est comme ça que j'ai recruté Mégane, qui est avec nous en stage en ce moment.
D'accord.
Elle postait son CV et je me suis dit, oh là là, son CV a l'air cool, donc je l'ai contacté.
Okay.
Donc c'est toujours comme ça. Je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui sont proches de son cercle. Ça permet, il y a déjà une sorte de confiance qui est déjà installée. Et c'est un projet qui me tient tellement à cœur que j'ai besoin de faire rentrer dans le projet des personnes de confiance.
Bien sûr.
Après, il y a aussi les candidatures spontanées. Je trouve que ça marche à toutes les personnes qui doutent.
Oui.
Ça marche. C'est beaucoup plus fort de recevoir des candidatures d'une personne qui te contacte et qui te dit « Écoute, j'adore ton projet, j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie de t'aider », plutôt que d'avoir une personne qui répond à une offre d'emploi. Il faut être proactif, il ne faut pas hésiter.
Ouais.
Et du coup, voilà, moi, je suis beaucoup dans le cercle, en fait.
D'accord. Ouais, bah, puis je rebondis là-dessus. Moi, je reçois, surtout en ce moment, beaucoup de demandes de stage. Alors, à une autre échelle, ma petite échelle d'agence événementielle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes qui arrivent dans ma boîte mail. Il y en a beaucoup, c'est Madame, Monsieur, par exemple. Et ça, tu vois, j'ai envie de leur dire aux jeunes, peut-être qui nous écoutent sur ce podcast, que si vous avez vraiment envie de participer à un projet, d'arriver dans une boîte, mais que ce soit un stage ou une alternance, les bonnes boîtes, elles estiment les personnes de la même façon, qu'on soit un stagiaire ou une personne en CDD, CDI, donc montrez que vous avez envie et appelez la personne par son nom ou pire son prénom. Mais enfin voilà, montrez que vous êtes vraiment investi, parce que le madame, monsieur, alors qu'on sait très bien que bah, moi je suis une madame et pas un monsieur. Non mais tu vois, je trouve ça important en fait ce que tu viens de dire.
Je suis totalement d'accord.
Ça peut être le déclic. Et là, aujourd'hui, moi j'ai une stagiaire, bah, par exemple. J'avais pas forcément prévu de prendre quelqu'un en stage, mais finalement, de fil en aiguille, elle a montré de l'intérêt, elle s'est investie dans le rendez-vous qu'on a fait. Et je me suis dit, bon, allez, banco, tu viens avec moi et tu m'accompagnes pendant 2 mois.
Mais comme quoi. Ah mais je suis totalement...
C'est important, ouais.
D'accord, c'est hyper important, enfin...
Alors du coup, les objectifs d'Omboa, là tout de suite maintenant, est-ce que tu peux nous en parler ? Je ne sais pas si c'est comment tu fonctionnes, des objectifs courts, moyens, long terme. Est-ce que tu peux nous dire là quelles sont les perspectives ?
Alors les perspectives, il y en a plein, il faut que je me canalise et que j'apprenne à prioriser le recrutement. Ça va être un gros enjeu. Il y a énormément de choses à faire et voilà, il faut absolument recruter.
Okay.
Pour recruter, il faut lever des fonds. Donc on est dans cette perspective-là. On est en train d'aller chercher des subventions auprès de la BPI, qui est un petit peu la banque d'investissement qui investit dans dans les sociétés. On est en train de passer des concours aussi. Donc ça, c'est chouette. Par exemple, j'ai eu une très bonne nouvelle hier que je partage en exclusivité.
Ah, vas-y.
Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je le partage quand même. J'ai été sélectionnée par Google pour obtenir une bourse de 100 000 $.
Chouette.
Donc, c'est un concours à l'échelle européenne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça ne marchera pas, mais ça donne de l'espoir et ça montre que...
Ça motive.
Voilà, ça motive dans tous les moments où je doute un peu et où je me dis, oh là là, mais dans quoi je me suis lancée.
Bah, ça te prouve que ton projet, pardon, il a de la valeur, il a du sens.
Complètement. Ça te prouve qu'il y a des gens qui y croient, donc ça te redonne un peu de motivation. Donc vraiment, le recrutement, la levée de fonds et puis... faire grossir la communauté de Naoué, ce serait chouette. Et le dernier objectif que je vais peut-être mener en parallèle, c'est tout ce qui est relatif à la presse, parce que je ne m'y suis pas du tout intéressée, mais je pense que c'est important de faire aussi rayonner le projet.
Ouais,
donc je vais commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait... apparaître dans plein de médias.
Ok, bon bah c'est chouette, il y a du boulot et tu fais bien de recruter. Est-ce que la levée de fonds, on en entend parler avec les réseaux sociaux, avec plein de médias qui s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat, au monde des startups, même à la télé avec la fameuse émission qui va être mon associé, où ça a un peu vulgarisé et familiarisé les gens avec ça. Comment on fait quand on veut faire une levée de fonds ?
Alors, c'est une grande question. Je suis en plein dedans.
Ouais.
J'ai le sentiment que c'est beaucoup... En fait, tout dépend de la somme que tu as envie de lever et de ton projet. Quand tu as un produit, ce qui marche très bien en ce moment, c'est les campagnes Ulule.
Oui, c'est vrai. Ça fait un moment que ça existe, ces campagnes Ulule, mais
exactement.
C'est vrai que toujours aujourd'hui, on en entend parler.
C'est génial. Ça te permet en fait de proposer des précommandes, de créer ta première communauté, donc c'est top. Alors moi, j'ai un service, donc c'est un peu plus compliqué et j'ai besoin de beaucoup plus d'argent.
Ouais.
Quand tu commences à vouloir des gros montants, donc des montants qui dépassent les centaines de milliers d'euros, il faut aller taper à la porte des business angels, donc des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont envie de l'investir dans des projets qui sont cool. Et quand tu veux encore plus d'argent, donc là on parle de millions d'euros, il faut aller taper à la porte des fonds d'investissement.
Ouais.
Moi j'en suis pas encore là, je suis plutôt à la recherche de 300 000 euros à peu près, 300 000, 400 000 euros, plutôt dans ces zones-là. Et du coup, l'idée, c'est d'aller faire des rencontres, d'aller taper à la porte de Business Angel et de leur présenter mon projet et d'espérer qu'il y en ait un qui a un coup de cœur pour mon projet, pour me donner des sous.
Bon, bah écoute, on croise les doigts, j'en doute pas en tout cas. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer, mais peu importe le projet, j'ai envie de dire que ce soit une start-up, pas une start-up, que ce soit une activité dans l'esprit de la tienne pour valoriser soit une culture, un artisanat ou autre. Quelqu'un qui aujourd'hui a une idée, qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais?
Alors, je dirais déjà de ne pas douter et de se lancer. C'est hyper important d'oser et de croire en son projet parce qu'il y aura des moments de doute où on va se dire « Oh là, mais mon idée, elle est nulle. » Il y aura des moments où les gens vont te dire « Oh là, mais pourquoi tu te lances? C'est pas un truc de fou, ton idée. » Et en fait, ma mère a l'habitude de me dire que si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera.
C'est bien vrai.
Donc, il faut y croire. Si cette idée a commencé à germer, c'est que la personne tient un truc. Donc, mon premier conseil, c'est ne jamais cesser d'y croire et se lancer. Et le deuxième conseil, c'est de savoir s'entourer. C'est hyper important. Alors, il y a plein de façons de s'entourer. Quand on est un peu dans le milieu des startups, il y a des incubateurs. Mais quand on a un projet un peu plus classique, si on veut ouvrir un restaurant ou si on a envie de créer sa marque de bijoux ou de cosmétiques, il y a des clubs, il y a des groupes sur Facebook. Ne pas hésiter à parler à d'autres personnes qui font la même chose que nous parce que ça vous fera gagner du temps. Parce que si vous vous lancez, en fait, dites-vous qu'il y a des personnes qui ont fait un peu la même chose et qui sont passées par les mêmes difficultés. Donc, s'entourer, rencontrer des gens.
Ok, bah écoute, merci pour ces conseils. En fin d'épisode, j'ai l'habitude de poser trois questions à mes invités, donc tu ne vas pas y échapper.
Ah là là.
J'aimerais que tu nous parles d'abord d'un échec, d'une déconvenue, quelque chose qui t'est arrivé, qui a fait que tu n'as pas réussi à un moment donné, et j'utilise le mot échec, mais bien sûr, il n'y a jamais d'échec parce qu'on apprend toujours de ce qui ne se passe pas comme prévu, mais est-ce que tu peux nous en parler, quelque chose, un moment donné, un ratage, un revers?
Alors, j'en ai eu plusieurs et dernièrement, et c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est les concours.
Ouais.
Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a plein de concours. Peu importe le projet, start-up ou pas, il y a plein de concours parce qu'il y a de l'argent qui existe un peu partout et il y a plein de structures, que ce soit des structures étatiques ou privées, qui sont prêtes à en donner aux projets qu'ils adorent. Donc, j'ai passé pas mal de concours, dont un concours qui s'appelle le concours CNAM pour célébrer, on va dire, l'entrepreneuse de l'année.
Ouais.
Et j'avais l'impression de cocher toutes les cases. J'ai lu tout le règlement, je me suis dit, mais c'est moi ça, c'est moi. Donc j'ai candidaté, j'ai fait mon dossier, j'ai fait ma vidéo, j'étais persuadée de gagner.
Ouais.
C'est pas bien d'avoir des...
Bah, tu croyais en toi, en tout cas.
Voilà,
si
je croyais tellement en moi que j'étais persuadée de gagner et j'ai pas gagné. Donc ça a été un gros coup dur. Et puis dernièrement, pareil, j'ai passé deux autres concours, le concours Shine, dont peut-être que tu as entendu parler.
Je connais.
Et le concours Move J pour les entrepreneurs de 30 ans et moins. Donc j'étais à la deadline.
Ouais, ouf,
ouf. Et en fait, pareil, les deux concours, je les ai pas gagnés. Et donc du coup, quand on ne gagne pas, on a tendance à se dire, oh là là, mon projet est nul. Mm. Et en fait, pas du tout. Il y a pas d'échec. Je suis d'accord avec toi. Il y a que des apprentissages. Et le fait de ne pas avoir été sélectionné, ça te permet de te remettre en question. Ça te permet d'avoir du feedback. Ça te permet de te challenger. Ça te permet de regarder un peu quels sont les sujets un peu plus tendance en ce moment.
Ouais.
Et du coup, voilà, ça te permet de grandir.
Ouais,
et il faut pas le prendre comme un échec parce que je suis sûre que dans tout mon parcours, j'aurai encore plein d'échecs. Mais il faut garder la tête froide, prendre du recul et se dire qu'en fait, voilà, c'est une expérience qui m'a permis de grandir.
Bien sûr, un apprentissage, comme tu le disais, et la preuve que finalement ça t'a permis d'apprendre et que t'en as quand même fait trois des concours, et pourtant tu nous dis les trois je les ai pas gagnés, mais tu les as fait, tu t'es réinscrite.
Exactement,
après.
Je me suis réinscrite. C'est top. Et encore une fois, il y a par exemple, je parlais de Google, celui-là, j'ai passé la première étape.
Ouais.
Donc, moi, ma mère a l'habitude de me dire, j'arrête pas de parler de ma mère, mais voilà, elle a l'habitude de me dire que quand tu rates entre guillemets quelque chose, c'est que quelque chose de mieux t'attend après.
Ouais, et ben c'est bien vrai, on va rester là-dessus. J'adore ta maman, elle dit des choses très vraies. Alors aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire la personne qui t'inspire le plus, de qui t'as le plus appris ?
Eh ben, sans grande surprise.
Ah, attention, roulement de tambour.
C'est ma mère. C'est ma mère. Alors, j'aurais pu dire Michelle Obama. J'aurais pu dire plein de personnes. Il y a plein de femmes qui m'inspirent sur cette planète. Mais celle qui m'inspire le plus au quotidien, c'est ma mère. Parce que voilà, elle a décidé de quitter la France, de partir s'installer en Afrique, envers et contre tous, avec plein de peur. Ouais. Mais elle y est allée. Et elle a tellement d'enseignements, en fait. C'est des petits trucs vraiment à la con. Désolée de dire ça, mais c'est des petites phrases qui te reste en fait et qui te motive au quotidien. Mmh. Quand je te disais qu'elle me dit, bah, si tu crois pas en toi, personne d'autre n'y croira, que voilà, ta seule limite c'est les étoiles, vas-y ma fille, tu vas y arriver. Enfin, elle m'a toujours motivée toute ma vie, ouais, dans tout ce que je faisais, et pour moi c'est une grande source d'inspiration. Ouais.
Bah super, c'est intéressant ce que tu dis. On a parlé dans l'épisode précédent avec Sarah, qui nous parlait de la confiance en soi, et on disait que c'est bien beau nous-mêmes de croire en notre projet, mais si les autres autour n'y croient pas non plus ou sont pas là pour soutenir, bah c'est dur. Donc là, ta maman a été primordiale, importante en fait, pour te donner l'impulsion nécessaire pour le projet. Chouette. Alors, quel est, pour finir, ton mantra, ta citation préférée, quelque chose, je sais pas, qui est peut-être accroché chez toi, que tu regardes tous les matins, qui te motive, qui te booste, une phrase?
Alors, des citations préférées, j'en ai plein. Elles évoluent beaucoup en fonction de l'étape de ma vie dans laquelle je... de l'étape de ma vie.
Ouais. On va arrêter. Alors, laquelle est du moment?
Et la citation du moment, c'est une citation d'Alan Kay qui est dans mon Productivity Planner. Ouais. Et elle dit, donc c'est une citation en anglais, donc désolée pour mon terrible accent, elle dit « The best way to predict the future is to create it ». Donc, en gros, la meilleure façon de lire l'avenir, c'est de se le créer. Ouais. Et j'adore cette citation parce qu'elle dit que tout est possible, en fait, que ça ne dépend que de nous.
Bon, on va vraiment définitivement finir là-dessus, tellement c'est beau cette citation. Est-ce que tu pourrais nous dire, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut alors te retrouver toi, retrouver les ateliers Omboa, si on veut en savoir un petit peu plus?
Bien sûr. Alors, les ateliers Omboa, ils sont disponibles sur notre site internet, donc www.omboa.com. On est présent sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et YouTube. Et moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Anne-Jennifer Chicou. N'hésitez pas à m'envoyer une petite invitation. Et j'ai également une chaîne YouTube où je partage mon expérience d'entrepreneur. Vous pouvez taper Anne-Jennifer sur YouTube.
Très bien. Bah, de toute façon, je mettrai les liens pour que tout le monde puisse te retrouver. Merci beaucoup pour cette heure ultra intéressante.
Merci
en ta compagnie.
Toi.
J'espère que l'épisode aura plu à toutes les auditrices et les auditeurs. Et puis, je te dis à très bientôt.
À très bientôt.
Merci. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre comme elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @comeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.